Alors, on va commencer une nouvelle série. Je ne sais pas combien de semaines elle va durer. Je sais que la leçon d'aujourd'hui, je pense que ça va prendre deux leçons. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. On va y aller au rythme normal, de manière à ce que on tourne pas trop les coins ronds, comme on dit. Alors, on va parler d'un sujet qui nous touche de plus en plus, la dépression chez les chrétiens. Alors, la dépression, c'est un sujet très, très large dans la société. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Mais des fois, on est porté à penser que chez les chrétiens, ça n'existe pas. Ou si ça existe, on donne à la maladie des choses, on lui fait porter des choses comme la honte ou la culpabilité. On les culpabilise au lieu de les aider. Alors, souvent, je pense qu'on a besoin d'avoir au moins un minimum de connaissances, de manière à ce que lorsqu'on va en vivre, qu'on va voir des gens autour de nous vivre le problème, qu'on agisse intelligemment et sagement pour les soulager et non pas empirer la douleur. Alors, bien souvent, c'est ça, la culpabilité et la honte accompagnent souvent l'inexprimable agonie de la dépression. Tous ceux qui la vivent, quand ils en parlent comme d'une agonie qui est vraiment difficile à exprimer. Alors, les Saintes Écritures en parlent de la dépression et elles nous enseignent que le croyant déprimé n'est pas oublié de Dieu. Et ça, c'est une chose qui est presque permanente chez tous ceux qui traversent des choses comme la dépression. Ils pensent qu'ils sont oubliés de Dieu. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que cette chose-là m'arrive? Et là, ça devient très lourd. Parce que là, quand tu penses que tu souffres puis que Dieu t'a oublié, ça amplifie encore davantage la souffrance. Autre chose, les Écritures nous enseignent non seulement le croyant déprimé n'est pas oublié de Dieu, mais qu'il n'est pas non plus un croyant inférieur. Alors ça fait quand même un bout de temps là, que je suis sauvé depuis 1979, alors ça fait bientôt 40 ans. Alors, je n'ai entendu toutes les couleurs, là, des gens qui font des commentaires sur d'autres personnes qui vivent des troubles de santé mentale dans l'Église. J'ai même entendu des remarques de pasteurs qui m'ont profondément blessé. D'entendre des choses de la bouche d'un pasteur, de dire des choses semblables, ça m'a secoué un peu. Alors, faut dire que les préjugés contre la dépression sont très répandus et bien dans la société et bien entendu aussi dans l'Église. Alors, notre étude va présenter les pensées et les sentiments des personnes déprimées et on va offrir quelques pistes de solutions. C'est pas que l'ensemble des sermons qu'on va faire va régler le problème, là. Mais du moins, on va essayer d'avoir au moins la bonne attitude et de mettre les personnes qui souffrent sur la bonne piste pour s'en sortir. Parce qu'il y a des pistes. Alors, on va les regarder au cours des prochaines semaines et on va essayer de développer et comprendre. Alors, on va méditer comment les aidants de ces personnes peuvent agir et comment ils doivent agir. Il y a toujours des aidants autour de ces personnes. Tu sais, comme là, on parle de quelqu'un, on vous a parlé tantôt de prier pour quelqu'un. Alors, bien sûr, si c'est l'épouse qui souffre, l'aidant, c'est le mari. Des fois, c'est les enfants. Alors, quelque part, ces gens-là, s'ils n'agissent pas correctement, au lieu de baisser la souffrance de la personne ou de l'aider, ils vont amplifier. Tu peux même amplifier si tu as un mauvais comportement. Alors, moi, ce que j'ai aimé de la petite brochure que j'ai utilisée pour bâtir cette petite série-là, c'est que l'auteur dit qu'il ne se perd pas en conjecture dans les causes et d'une tentative d'explication. Il cherche à être pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Essayer de comprendre les causes qui peuvent être plus diverses qu'on est porté à penser. Alors, on va tout regarder ça. Alors, comme chrétien, je suis sûr que le Seigneur nous demande d'aider et de soulager nos frères et sœurs en Christ qui souffrent de dépression. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, Il y avait un professeur qui nous enseignait le grec. Et il était... c'était un homme très, très spirituel. Il connaissait son grec, là. C'était, c'était vraiment une autorité. Un bon dimanche, j'arrive à son église. Et il dit, là, je ne sais pas ce qui m'a poigné. Mais il dit, je suis tombé down, mais down, comme je n'ai jamais été de toute ma vie. Puis disons, les réactions que ça a provoquées dans l'église, les gens ont venu me voir, ils ont dit, il y en a qui m'ont dit, coudon, pasteur, y a-t-il quelque chose que tu vois pas dans votre vie? Y aurais-tu du péché? Et là, il dit, ça lui l'a blessé énormément. Et à quelque part, il était consulté un médecin, et dans son cas, lui, c'était physique. Alors, les médecins ont trouvé la cause qui était physique dans son cas. Mais c'est que pour dire que dès que tu parles de dépression, il y a toutes sortes de préjugés qui montent à la tête des gens. Alors, c'est rien que de donner un exemple. Je me souviens qu'il nous avait dit à l'époque, « Mes amis, si jamais vous allez dans le ministère, on était à l'école biblique, donc on n'était pas encore dans le ministère, mais si vous allez au ministère, n'oubliez jamais que dans les cas de dépression, ne jugez pas trop rapidement. Parce qu'il dit, vous allez vous fourvoyer, puis vous allez faire plus de mal que de bien. » Alors, les clichés puis les préjugés, bien entendu, sont nombreux et nous devrions les éviter pour ne pas empirer la situation alors que nous essayons d'aider. Si on essaye d'aider puis qu'on remplit la personne, c'est pas trop brillant, comme on dit. Hein? Alors, c'est d'une importance capitale que de conserver une approche équilibrée entre les différentes explications fournies par la psychologie, la science... et la Bible. Alors, une approche équilibrée, là, ça veut dire que si ça va juste dans un sens ou juste dans l'autre, tu risques de te tromper. Alors, on devrait savoir tous qu'il n'est pas facile de savoir si la dépression se trouve sa cause dans tout est physique, autrement dit, c'est tout un débalancement hormonal ou du cerveau, tout ce que tu voudras, ou tout est mental, c'est juste dans sa tête que ça se passe. On entend ça, là, des affaires de même. Ou bien non, tout est spirituel. Ah bien, c'est à fil de même, bien c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie. Alors, quelque part, pour être capable de... Souvent, c'est des causes multiples, et c'est pas facile à démêler. Même les grands spécialistes ont de la misère. Alors, nous autres qui connaissons rien, on n'est pas vraiment bien placés pour amener des jugements à l'emporte-pièce dans ces affaires-là. Alors, les chrétiens qui ont expérimenté cette terrible épreuve disent qu'ils se sentent dans une grande noirceur, comme abandonnés au milieu de l'océan et n'ayant personne pour les aider à s'en sortir. Je peux vous dire, si vous vivriez cette situation-là, tu es sur la mer, tu es perdu, tu ne trouves pas personne pour t'en sortir, le sentiment que ça donne, c'est un sentiment très douloureux. Alors, les personnes qui l'ont vécu et qui s'en sortent, parce que l'auteur que je me sers connaît des personnes qui ont écrit là-dessus, qui ont traversé l'épreuve, et ils se disent que c'est une terrible épreuve, qu'ils se sentent vraiment comme dans noirceur. Alors, je me suis servi du petit livre qui a juste 112 pages, qui a été écrit par le docteur David P. Murray, et ça s'intitule « Christian Get Depressed Too ». Autrement dit, si vous traduisez, c'est « Les chrétiens peuvent être déprimés aussi ». C'est publié par Reformation Heritage Books, Grand Rapids, Michigan. Je vous dis que si vous lisez l'anglais, moi, je vous recommande de le lire parce que c'est vraiment fait court. Ça n'a pas été fait dans le but de vouloir tout expliquer. Ça a été fait dans un but de faire une synthèse, d'essayer de comprendre comment on doit se comporter dans ces situations-là. Moi, ce qui m'a fait que je l'ai acheté, souvent à cette heure, des livres, j'en achète moins, parce que même tous ceux que j'ai même pas encore fini de les lire, alors j'en achète moins. Ce que j'ai dit au Seigneur, pour mes prochaines années qui me restent à vivre, s'il me donne des années, c'est de permettre que les livres que je vais acheter, ça va être des livres dont j'ai besoin et qui peuvent aider la communauté chrétienne, petite ou grande. Quand on met ça sur Internet, on peut aider des gens à l'autre bout de la France, de la Belgique, en Afrique, puis on ne sait même pas. Là. Alors, ce petit livre-là, je l'ai lu et pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que moi, j'aime bien les livres recommandés. Quand un livre m'est recommandé par un auteur comme Joel Beakey aux États-Unis, c'est une personne qui est une autorité dans le milieu des presbytériens, et c'est une personne qui a étudié en profondeur les puritains. Moi qui aime les puritains, là, c'est un homme qui connaît les puritains, mais moi je connais rien à côté de lui, là. C'était vraiment une autorité. Et lui, il a dit que si jamais, dans mon église, il y avait quelqu'un qui souffrait de dépression, ça serait très certainement le livre que je voudrais lui donner. Parce qu'il est court, il dit ce qu'il a à dire, mais il n'en dit pas trop. Mais après ça, il donne d'autres titres de livres que si jamais tu veux aller plus loin, là, tu peux aller plus loin. Alors, le docteur Beakey le recommande avec les mots suivants. Je vous l'ai traduit en français, parce que, bien entendu, dans le livre, c'est en anglais. Il dit, « Si je me sentais déprimé, je me tournerais immédiatement vers le livre « Christian Get Depressed Too ». C'est le premier livre que je recommanderais à toute personne de ma congrégation qui lutte avec la dépression. Ce livre est clair, concis et rempli de compassion. Il a été écrit par mon collègue, le docteur David Murray. Il est d'une simplicité désarmante et éminemment pratique. Dans ses pages, vous trouverez des conseils sains, sages et bibliques pour vous aider à gérer une variété de cas de dépression. » Alors, venant d'un homme comme Joel Beakey, le connaît, quand j'ai vu son nom et qu'il le recommandait avec autant de chaleur, je me suis dit, ah, ça serait un petit livre qu'il faudrait que j'achète. Et ce que j'ai fait, je ne l'ai pas regretté. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont profiter de cela, non seulement ici, la congrégation, mais quand on met quelque chose sur Internet, ça aide des gens beaucoup plus loin. Et vu qu'on met les textes, les notes de sermon aussi, donc ça peut servir à d'autres. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire avec ça. Il est possible que vous ayez déjà entendu des chrétiens ou des mots impliquant cette idée, que ce soit des pasteurs ou autres, là, dire, mais les chrétiens ne peuvent pas être déprimés. Nous sommes persuadés que cette affirmation est fausse, voire même dangereuse. La raison est simple, elle véhicule avec elle un poids de douleur et de culpabilité qui peut s'ajouter à un esprit déjà obscurci et à un cœur déjà brisé. Pas le temps de faire du mal à quelqu'un qui est déjà à terre, comme on dit. C'est intéressant de savoir les statistiques. Les statistiques indiquent qu'une personne sur cinq expérimentera la dépression ou des attaques de panique un jour ou l'autre au cours de sa vie. C'est beaucoup, là. Une personne sur cinq. Pas juste la dépression. Lui, il a mis dans son livre, il parle de dépression et d'attaque de panique. Alors, moi, j'ai déjà connu des gens qui vivent ça, cette affaire-là, des attaques de panique, là. Alors, la science médicale utilise de plus en plus le terme « dépression-anxiété » avec un trait d'union. Donc, c'est pas juste la dépression, c'est la dépression et les troubles d'anxiété qui souvent sont proches de la dépression, pour qualifier ce problème-là. Il estime qu'il y aurait sur la Terre, actuellement, là, en 2018, plus de 121 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression. C'est du monde, ça, mon ami, 121 millions de personnes. Des études ont démontré que 5,8% des hommes et 9,5% des femmes expérimenteront une période dépressive au cours d'une année courante. C'est beaucoup, là. On parle de quasiment de 6% pour les hommes puis quasiment de 10% pour les femmes. La raison pour laquelle les femmes plus, je ne sais pas. Mais c'est quand même des statistiques. Le suicide est souvent le résultat d'une dépression. On a eu un cas récemment, vous savez tous à qui je fais référence. Et c'est même la cause majeure des décès violents dans le monde. Quand on parle de décès violents, là, on parle de 49,1% qui est dû à des dépressions. Si vous prenez toutes les causes de mort violente, il y a quasiment 50% qui sont dus à des dépressions. Et si vous comparez ça avec la guerre, 18,6% et les homicides, 31,3%. Donc, La dépression en termes de crime, pas de crime, en termes de causes violentes des décès, c'est numéro un, top numéro un. Alors, la première chose que le petit livre fait, c'est d'examiner 8 raisons pour lesquelles, comme chrétien, on se doit d'examiner le sujet de la dépression et un peu de clairer nos idées, nos préjugés et d'essayer d'être dans un état d'esprit qui est plus aidant que empirant. La première raison, donc il y en a 8, je ne sais pas si on va avoir le temps de les faire ce soir, mais en tout cas, on en fait quelques-unes. La première, c'est que la Bible en parle. Des fois, on est porté à penser, oh, la Bible parle pas. Des fois, le mot dépression n'est pas dans la Bible. Mais il y a des états dépressifs, il y a des personnes dépressives. On va en faire le tour de quelques-uns. Alors, la Bible contient de nombreux versets qui se réfèrent aux causes, aux conséquences et aux remèdes sur la dépression et aussi à l'anxiété sévère. Les Saintes Écritures ne donnent pas toutes les causes et ne donnent pas non plus toutes les conséquences. Elles ne fournissent pas non plus toutes les remèdes. Comme nous le verrons plus tard, la Bible a un rôle important à jouer dans le traitement des chrétiens qui souffrent de dépression ou d'anxiété. La Bible ne dit jamais que tel ou tel personnage était déprimé. Si vous vous gardez, là, je vais vous en nommer tantôt des versets, des passages où on a affaire à des personnes qui souffraient de dépression ou du moins proches de dépression ou d'anxiété. Mais la Bible n'utilise pas le mot dépression. Ne cherchez pas de dépression dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Alors, elle nous décrit souvent des hommes ou des femmes qui manifestaient des symptômes de dépression ou d'anxiété. Dans certains cas, il n'est pas clair si ces personnes souffraient d'une maladie mentale de longue date ou si elles vivaient un état émotionnel temporaire ou périodique. Examinons quelques exemples. Moïse, Nombre 11, versets 12 à 15. Moïse, il parle à Dieu, il dit: Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Ou l'ai-je engendré, que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l'enfant qui tète, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères? D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple? Car il pleure après moi en disant, donne-nous de la chair que nous mangions. Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Que si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois point mon malheur. Ça ressemble-tu un petit peu à une dépression, ça? Il voyait que c'était extrêmement lourd, puis il était en train de dire au Seigneur, si ça continue de même, là, j'aime mieux que tu me tues que de vivre ça. Alors Moïse était dans un état dépressif. Un autre, Anne. On sait, Anne, bon, était dans un état où elle ne pouvait pas avoir d'enfant, puis il y en a une qui riait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et elle a traversé un moment difficile. 1 Samuel 1, verset 6 à 16. Et sa rivale la mortifiait, même fort elle aigrement, afin de l'irriter, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et Elkana faisait ainsi tous les ans. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna l'offensait de la même manière. Et Anne pleurait et ne mangeait point. Et Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu point? Et pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Or, après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva. Et Élie, le sacrificateur, était assis sur son siège auprès d'un des poteaux du temple de l'Éternel. Elle, donc, l'âme pleine d'amertume, pria l'Éternel en répandant beaucoup de larmes. Et elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Or, Anne parlait dans son cœur, remuant seulement les lèvres, et l'on n'entendait point sa voix. Élie crut donc qu'elle était ivre, et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va faire passer ton vin! » Mais Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme méprisable, car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. » On voit une femme ici qui souffrait à cause qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'il y a quelqu'un qui se moquait d'elle. À quelque part, on voit qu'elle dit, elle n'utilise pas des mots, elle dit, « Car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. » Elle était rendue comme un jabu. Donc, Anne était dépressive. Mais le Seigneur a écouté sa prière, lui a donné un enfant, et elle a tenu parole. Elle a fait de Samuel un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Un autre personnage, Jérémie. Alors, Jérémie, chapitre 20, versets 14 à 18. Jérémie, chapitre 20, versets 14 à 18. Regardez bien les mots qu'il choisit pour parler au Seigneur. « Maudit soit le jour où je naquis, que le jour où ma mère m'enfanta ne soit point béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, un enfant mâle t'est né et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans s'en repentir. Qu'il entende la clameur au matin, le cri de guerre au temps du midi. Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que n'a-t-elle pas été mon tombeau? Et pourquoi n'a-t-elle pas été sans terme? Pourquoi suis-je né pour ne voir que tourment et qu'ennui et pour consumer mes jours dans la honte? » Il faut dire que quand vous lisez le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie, Jérémie ne l'a pas eu facile. Alors qu'il ait traversé des périodes où ce qui était déprimé un peu, c'est complètement normal. Dans Lamentation aussi, encore Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 6, il dit, « Je suis l'homme qui ai vu l'affliction sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit et fait marcher dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi seul, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait vieillir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti contre moi et m'a environné d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans les liens ténébreux comme ceux qui sont morts depuis dès longtemps. Il a élevé autour de moi un mur afin que je ne sorte point. Il a appesanti mes fers. Même quand je crie et que j'appelle du secours, il repousse ma prière. » Alors on voit que Jérémie connaissait ce que c'était que la dépression. Élie, l'épisode d'Élie. Alors, verset 1, « Or, Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment elle avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la dernière rigueur. Si demain, à cette heure, je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. » Et voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il s'en vint à Beersheba, qui est de Juda. Et laissa là son serviteur. Mais pour lui, il s'en alla dans le désert une journée de chemin et vint s'asseoir sous un genêt. Et il demanda la mort en disant, « C'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha en disant, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alors, on continue jusqu'au verset 13. « Il se leva donc et mangea et but, et avec la force que lui donna ce repas, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans une caverne. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Et il répondit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis demeuré, moi, seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passait. Et un grand vent et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Et sitôt qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fut adressée en ces termes, « Que fais-tu ici, Élie? » Alors Élie, on se souvient qu'il avait égorgé, je me souviens plus combien, de prêtres de Baal. Et là, la reine, elle en voulait. Ben, il a dit, « Toi, là, je vais l'avoir ta peau. » Puis elle courait après pour l'avoir. Et là, lui, il a pogné, comme on dit en québécois, il a pogné les quatelles. Il a eu peur, et là, il a pogné une dépression, et il cherchait à fuir. Quelque part, si on avait été dans une pression pareille, est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose? Presque sûr qu'on aurait fait la même chose. Job, bien entendu, a eu, c'est lui, je dirais, un des personnages de la Bible qui a été le plus éprouvé. Alors, bien sûr, il a connu des moments de très intense dépression. Job 6, versets 2 à 10 ou à 9. « Oh, si l'on pesait ma douleur, et si l'on mettait en même temps mes calamités dans la balance, elles seraient plus pesantes que le sable des mers. Voilà pourquoi mes paroles sont outrées, car les flèches du Tout-Puissant sont sur moi. Mon âme en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'onagre braie-t-il auprès de l'herbe, et le bœuf muge-t-il auprès de son fourrage? Mange-t-on sans sel ce qui est fade? Trouve-t-on du goût dans un blanc d'œuf? Ce que mon âme refusait de toucher est comme devenu ma dégoûtante nourriture, et puisse mon vœu s'accomplir et Dieu me donner ce que j'attends. Qu'il plaise à Dieu de me réduire en poussière, et qu'il laisse aller sa main pour m'achever. » Alors, à quelque part, il était dans une douleur d'une telle intensité que la seule chose qu'il souhaitait, c'est mourir. Alors, à quelque part, des personnages qui ont connu des dépressions dans la Bible, on en a. Maintenant, le livre des psaumes est un livre qui est littéralement beaucoup, beaucoup de passages où des personnes, des psalmistes, qu'on dit, sont dans un état où ils sont vraiment... Et la Bible ne cherche jamais à cacher ces choses-là. Et les personnes qui la vivent, quand on regarde la manière dont ils s'expriment à Dieu, c'est des personnes qui n'essayaient pas de cacher leur état. Ils disaient ce qu'ils vivaient. Point final. Alors, on a un exemple dans le psaume 42, dans les versets 1 à 3 et dans les versets 9 à 11. Au maître chante. Cantique des enfants de Corée. Comme un cerf brame auprès les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Les larmes sont devenues mon pain jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Il dit que ses larmes sont devenues son pain jour et nuit. Et le verset 9 à 11, « Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi marcherai-je en deuil sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes ennemis m'outragent, disant chaque jour, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Alors, on voit que le langage qui est utilisé, pourquoi t'as battu à mon âme? Pourquoi m'as-tu oublié? Les larmes sont devenues sa nourriture jour et nuit. Ça va pas bien son affaire, là. On a un autre dans le psaume 88, les versets Les versets 1 à 18, et on va terminer là. Au maître chante cantique, psaume de Corée, sur la cithare, masquil, d'Eman l'Israquite. Éternel Dieu de ma délivrance, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne à ta présence. Incline ton oreille à mon cri, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme sans vigueur, gisant parmi les morts, tels que les blessés à mort qui sont couchés dans le tombeau, dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de ta main. Tu m'as pris dans la fosse la plus basse, dans les lieux ténébreux, dans les abîmes. Ta colère pèse sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ceux que je connais. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mon œil se consume par l'affliction. Je t'invoque, ô Éternel, tous les jours. J'étends mes mains vers toi. Feras-tu quelque chose pour les morts? Ou les trépassés se lèveront-ils pour te louer? Annonceras-tu ta bonté dans le tombeau et ta fidélité dans l'abîme? Connaîtra-t-on tes merveilles dans les ténèbres et ta justice dans la terre d'oubli? Et moi, Éternel, je crie à toi. Ma prière te prévient dès le matin. Éternel, pourquoi rejettes-tu mon âme et me caches-tu ta face? Je suis affligé et comme expirant dès ma jeunesse, je suis chargé de tes terreurs, je suis éperdu. Tes fureurs ont passé sur moi, tes épouvantes me tuent. Elles m'environnent comme des eaux chaque jour, elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, ceux que je connais, ce sont les ténèbres. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui, on terminera la semaine prochaine.